RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
le Super Football Show. RMC, le Super Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia et Daniel Riolo et vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. On vous rappelle qu'il y a le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue à gagner. Vous allez sur le compte Twitter de l'After, vous followez, vous retweetez, vous serez tiré au sort. On est avec Ali Benarbia, avec Daniel Riolo. Et il y a de la boxe ce soir. Joshua Parker, Morgan Mori, qui était au Principality Stadium au Pays de Galles. Ça donne quoi, Morgan?
Quatrième reprise de ce championnat du monde unifié des poids lourds. Avantage Joshua et Nicolas. Il a commencé très doucement. Deuxième reprise où Parker a gagné les 20 cm au sol qui lui manquent pour être à la bonne distance d'Anthony Joshua. Il a été dangereux. Il a donné ses premiers crochets et sentant le danger venir, Anthony Joshua a accéléré avec son jab. Il a touché plusieurs fois. Le jab, c'est son bras avant. Il a touché plusieurs fois Joseph Parker. La géométrie de ce match est la même depuis le premier round. Au centre du ring, Anthony Joshua, et qui lui tourne autour dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est Joseph Parker. Mais il a déjà été touché plusieurs fois, Joseph Parker. Il est en difficulté dans ce combat. Il est mené, on peut le dire, le jam encore une fois qui passe de Anthony Joshua, pleine tête de Joseph Parker. Fin de cette cinquième reprise, ça peut être très long pour Joseph Parker s'il n'arrive pas à gagner les quelques centimètres qui lui manquent pour s'approcher d'Anthony Joshua, puisque dès que Joshua peut donner un premier coup avec le jab, il peut armer derrière son bras droit, et là ça peut faire très mal. Il n'a pas encore donné de série, Joshua, mais ça ne serait tard.
Hey Morgan.
Oui Daniel.
Bon, c'est vrai que chez les lourds, on dit toujours que sur un coup ça peut basculer, mais quand on voit les deux mecs et les deux physiques, surtout, c'est quand même le sentiment, il n'y a pas photo. Je sais pas, l'autre, il est pas dense physiquement, Parker. Ça bouge beaucoup, le corps et tout. Joshua, c'est un dieu, c'est une statue grecque. Tu vois, il est dense, il est raide, il n'y a rien qui bouge, il est parfait, quoi. L'autre, il est pas du même acabit, quoi.
Non, c'est pas la même génétique.
C'est pas la même chose, quoi. Tu vois, c'est. Alors c'est vrai, sur un coup ça bascule, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas photo entre les deux, ça peut pas aller au bout, quoi. C'est
non, le
possible.
Punch, il est pour Anthony Joshua, Daniel, ça ne fait aucun doute.
Mais...
Et quand tu interroges les gens
que
dans
ça,
la rue,
c'est à tous les niveaux, il est au-dessus. Ouais, ouais. Hein.
Sur la classe,
est-ce qu'il fait pas durer?
Il est au-dessus. Et je pense que
ça va être le vrai combat des mois ou des années à venir face à Joshua. Il y a qui vraiment
Fury
qui peut?
Oui, Tyson Fury. Bon, après, moi, à mon avis, il y a une différence énorme entre les deux. Et Deontay Wilder, le champion du monde américain de la WBC, qui est la dernière ceinture, qui
c'est
n'est
le
pas
prochain,
mis en jeu
ça
ce soir. Ce sera pas tout de suite, Daniel. Peut-être en 2019. Oh, le jab encore qui a ébranlé Joseph
en 2019,
Parker.
Tu dis
ce serait peut-être en 2019. Faut se mettre d'accord. C'est des contrats difficiles à signer. Lui, alors, c'est une bête. Par contre, lui, c'est une bête. Ce Deontay Wilder, Daniel,
Povetkin
qui a gagné le combat juste avant. Oui. Mais Anthony Joshua, il n'évite personne.
Bien, ça, voilà.
Il est dans sa jeunesse, dans ses belles années.
Okay.
Et là, il est très généreux. Il prend les adversaires. Il va unifier peut-être les ceintures ce soir. En tout cas, il mène. C'est le début de la cinquième reprise. À l'instant, Joshua qui est devant et Parker qui n'arrive pas à se montrer dangereux. Un peu trop court de bras pour l'instant.
Merci Morgan Mori. On va l'écouter, Unai Emery, en ce moment même en direct en conférence de presse. Unai Emery qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue 3-0 face à l'AS Monaco.
Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui la voient cet match, ils la voient un bon match avec des bonnes équipes. Et aussi qu'il a profité avec, comme d'équipe, il a joué avec les talents individuels et le travail collectif.
Allez, Unai Emery en direct en conférence de presse, lui qui a remporté une nouvelle Coupe de la Ligue avec le Paris Saint-Germain ce soir. Victoire 3-0 face à l'AS Monaco au Matmut Atlantique. Elle est longue la question là. Pour lui.
C'est moi ça.
C'est vrai qu'on dirait toi dans la
foule.
Et là, si tout se passe comme avec Ali, le mec se barre. Hein.
Pourquoi il a beaucoup de réponses peut-être. Mais surtout, je crois que c'est une... Tous les titres, tous les chemins que cet club, cette équipe, il passait dans les championnats de France avec les titres qu'il a, et pour l'histoire de cet club, c'est un nouveau club, et aussi qu'il besoin de, et je crois que le club il va bien, pour progresser, première, comme l'équipe est plus fort maintenant, et pour faire une histoire ici à France, et après pour continuer, pour grandir à l'extérieur, à Europe et pour le monde. Mais je crois qu'il est dans le bon chemin. Je crois que le club il est dans le bon chemin, pour être dans les prochains futurs avec l'assumption d'être dans les meilleures équipes du monde et dans l'option de gagner les meilleurs titres du monde que l'équipe il veut. C'est vrai que c'est la championne, mais c'est un chemin. C'est avec les expériences, avec la progression, avec le travail, avec les processus dans l'équipe, avec les joueurs, avec les clubs. Mais c'est un club, un nouveau club. Que, de moment, il n'est pas le premier club de France avec l'histoire pour le titre de championnat, que c'est, je crois que c'est Saint-Étienne, et qu'il a besoin de faire cet chemin.
Merci Unai. Non, c'est pas pareil, Unai. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, Unai Emery. Voilà.
C'est incroyable parce que, enfin, c'est. J'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure conf d'après-match depuis qu'il est arrivé à Paris.
Bah, il est peut-être, là, ils se sont peut-être libérés d'un truc, non?
Mais j'ai l'impression que là, je l'entends dans le ton et même sur sa tronche.
Son vrai ton à lui.
Libéré.
Ouais. Il a l'air soulagé. Il a vu l'épée Damoclès, là. Il sait que c'est mort.
Mais c'est ça qui est dingue.
T'étais pas au courant, Thomas Meunier a annoncé qu'il se barrait. Il a annoncé son départ, donc c'est bon, il est pénard, maintenant.
C'est ça qui est fou. C'est que finalement on s'aperçoit que ce type-là va aller poursuivre sa carrière ailleurs, il aura une carrière, cet entraîneur.
Peut-être retourner à Séville.
Il est venu au PSG et que, ben, en fait, il n'a jamais pu s'exprimer réellement et exprimer sa personnalité. Là, ce soir, c'est pas le même homme. Il est libre, même, mais son attitude corporelle. L'a montré comme jamais on l'avait vu. C'est fou.
Juste pour
c'est
que tu kiffes un peu plus, Daniel, c'est quoi? On y retourne. Unai Emery en conférence de presse.
Et avec cette équipe, avec l'esprit des joueurs, c'est vrai que la défaite du Real Madrid,
c'est vrai, il dit.
C'est une grande défaite. Mais c'est le Real Madrid. Mais après, si elle avait ça, je suis très content avec cette équipe.
Et ben voilà, merci Unai, voilà, libéré, délivré.
Et
voilà,
moi je pense que d'ici la fin ils vont en faire d'autres.
On va garder rue Nicolas, Daniel, oui. L'arbitre avait ordonné le break entre les deux hommes et eux qui ont continué à se donner des coups, c'est Parker, Joseph Parker, et qui a essayé de court-circuiter la boxe bien huilée d'Anthony Joshua. Ils ont été rappelés à l'ordre par l'arbitre de ce combat, Anthony Joshua, qui avait frappé assez durement Joseph Parker au début de cette sixième reprise. Encore une fois, là le bras arrière. C'est lourd qui vient tomber sur le de Joseph Parker. Il résiste, il est solide, le néo-zélandais d'origine samoane. Il arrive un peu en bout de course et Parker qui se jette derrière vers Anthony Joshua. Il vient chercher le corps, l'abdomen pour ensuite remonter à la face, mais avec ses grands bras, Anthony Joshua qui contrôle les escarmouches pour l'instant de Joseph Parker. Sixième reprise de ce championnat du monde unifié des poids lourds à Cardiff, et Joshua qui fait toujours course en tête, la droite n'est pas passée. Parker qui essaie de répliquer avec un uppercut, c'est arrivé dans les gants d'Anthony Joshua.
Il est pas passé le percute là, non?
Non.
Tout à l'heure, non. Ah, d'accord. Non, parce que là j'ai vu, mais non, effectivement, il a mis le gant en dessous. Ouais.
On va accueillir Bilal, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'AS Monaco. En ce moment même, il y a le combat entre Joshua et Parker. C'est Morgan Mori qui est au commentaire. Salut Bilal, bienvenue à toi dans l'after.
Salut les gars, salut tout le
monde. Salut Bilal.
Ça va?
Bah,
très
ça va et toi alors?
Ouais, nickel. Je sors du stade.
Ah, t'étais au Matmut Atlantique,
ouais,
à Bordeaux.
Ouais, j'étais au stade, supporter de Paris. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite dédicace. On y était pour l'enterrement du garçon de mon petit frère Fouette, là, qui va bientôt se marier.
Bon, on l'embrasse. Comment s'appelle future Madame Fouette?
Voilà.
Comment s'appelle la future Madame Fouette?
Elle s'appelle Pauline.
Et ben, on l'embrasse Pauline.
Voilà. Et on l'embrasse Pauline, voilà. Bon.
Bon, ça c'est fait, ok.
Comme je disais avec la personne à qui j'étais au téléphone, je parlais de Presnel Kimpembe. Je voulais revenir un peu sur sa prestation ce soir, et en fait je voulais surtout dévier sur le fait qu'il a tellement été énorme ce soir, et on se demandait justement avec la clique qui était avec moi, comment ce mec-là n'a encore pas eu sa vraie chance en équipe de France. Et on a vu Didier Deschamps dans les tribunes ce soir.
Non mais Bilal,
j'espère qu'il a bien regardé le match comme nous, quoi.
Non, Bilal, pour l'équipe de France c'est une chose. D'abord il arrive en retard par rapport aux autres, et ceux qui sont en place sur leur parcours en club, on peut considérer que c'est un peu normal. En revanche, la réflexion qui pourrait être menée, ou je pourrais te rejoindre, parce que c'est en club et là il y a une concurrence qui se voit à l'entraînement, un entraîneur qui suit tout le monde, et après nous on voit les matchs quand il y joue ces matchs-là. Là où je suis d'accord, c'est que pour le début de la prochaine saison, c'est difficile de ne pas considérer que Kimpembe doit être un titulaire dans cette équipe.
C'est le patron.
Là-dessus, je suis d'accord. Là,
mais tu penses pas que ça peut arriver pendant le mondial? Tu sais que ça arrive souvent dans les phases finales.
Non, mais ça, c'est possible. Ouais, non, mais c'est
avec,
pas.
Bah, c'est arrivé avec Umtiti.
Ça
arrive dans beaucoup d'histoires de sélection, ça arrive.
Mais tu rentres pas.
On peut déjà voir ce qui s'est passé.
Déjà qu'il soit titulaire.
On peut déjà voir ce qui s'est passé ce soir, son évolution au PSG, parce que, mine de rien, c'est quand même quand, en club, tu es titulaire et que tu t'es imposé, ouais, que la logique veut que tu ailles après briller en équipe de France. Faisons les choses par étapes. Ouais. Et on est quand même maintenant à l'année dernière, cette année, où il joue, il a de plus en plus de temps de jeu. Je crois d'ailleurs qu'au niveau du temps de jeu, ça a plutôt bien réparti
entre
les
année.
Trois.
C'est la première année.
Et là, si moi, on me demande, les trois, fait la charnière, aujourd'hui, on est presque devenu à Kimpembe plus un, quoi.
Ouais, mais Bilal,
mais Kimpembe, Thiago Silva.
Ouais, mais déjà, Bilal, quand tu parles d'équipe de France, déjà, t'as une concurrence, Koscielny, Umtiti, Varane, déjà. Des joueurs qui jouent depuis longtemps. Non, mais attends, qui jouent depuis longtemps en club.
Ben
non, mais et qui jouent depuis longtemps.
Et qui sont titulaires.
En équipe de France, Varane.
Qui jouent en plus,
Koscielny,
et qui ont une antériorité en plus.
En équipe de France. Donc Kimpembe, déjà, rentre. Si déjà, il est en concurrence avec eux, Bilal, c'est énorme pour Kimpembe, déjà.
Non mais franchement, Ali, avec tout le respect que j'ai pour toi.
Non, moi j'adore. Moi-même je milite. Déjà pour qu'il soit titulaire au PSG. Et pour moi, s'il est titulaire au PSG, automatiquement, il va bousculer à la fois Varane et à la fois Umtiti, en sachant que Koscielny, de toute façon, il va s'arrêter après la Coupe du Monde, donc tu vas avoir ce trio-là.
Vas-y, Bilal.
Non mais franchement, hein, à la limite, Varane, Umtiti, je comprends, mais Koscielny, franchement. Koscielny,
c'est ce que je dis.
C'est compliqué. Mmh. Après, il doit pas être là juste parce qu'il a son statut et son vécu en équipe de France. Enfin, on sait que c'est la philosophie de Didier Deschamps et qu'il aime bien installer son équipe, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
Ah, mais c'est la philosophie de partout. Hein. Même s'il serait en Allemagne, je pense que Joachim Löw, je vais te dire, même si c'est costaud en défense centrale, il ferait rentrer un jeune joueur comme Kimpembe progressivement, pour pas le griller. Et là, on a la chance d'avoir un défenseur hors norme pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Laissons-le déjà rentrer progressivement. Le niveau international est totalement différent en club. On le sait très bien. Et c'est une bonne chose, par contre, pour l'équipe de France. Et c'est une bonne chose pour Kimpembe aussi, attends. Hein. Parce que cette façon de rentrer, comme l'a fait Emery, ce qu'on aurait pu ne pas penser faire tourner les trois, il n'y a pas longtemps, hein. On aurait dit Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe, il attend. Ça n'a pas été le cas, on l'a vu face au Real Madrid où il a été titulaire devant Thiago Silva. Eh ben, je peux te dire que ce qui a été fait, ça, c'est top pour Kimpembe.
Ouais. En tout cas, vous m'entendez?
Vas-y, Bilal.
En tout cas, ce soir, voilà, franchement, on a vu un gros match de Kimpembe. Franchement, c'est un patron en devenir.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des individualités, de ceux qui ont été bons ou moins bons.
Mmh. Attends, on va faire les vagues dans quelques instants.
Tous les Parisiens bons. Kimpembe a été excellent. Doit faire les vals, bon, on va venir.
Il y en a un qui n'a pas été très bon. Alors, il est rentré en cours de jeu, c'est Javier Pastore, et il est en ce moment même en zone mixte. On va l'écouter, l'Argentin du Paris Saint-Germain.
De la gagner.
C'était le même scénario que l'année dernière, finalement.
Javier Pastore.
Oui, ça finit pareil, et c'est normal, c'est des deux grands clubs de France. On est arrivé avec beaucoup d'envie, et c'est la première coupe, la première finale qu'on joue cette saison, et on l'a gagnée. On va attendre que ça passe la même chose avec la Coupe de France et qu'on gagne les championnats, c'est l'objectif maintenant.
Vous n'avez quasiment jamais été mis en danger, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une vraie opposition ce soir.
Non, la première mi-temps, on a eu des Soka, l'équipe de Monaco, mais bon, Trapp il était bien, après un but qu'il a arrêté en encontrant avec les gardiens, mais après on a contrôlé très bien le match et l'équipe il a joué très bien ce soir.
Fabien, qu'est-ce que vous avez pensé de l'utilisation de la vidéo ce soir?
Voilà, c'était Javier Pastore en direct en zone mixte, et on remercie Bilal qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir Fatah.
Le combat qui se durcit, début de la 8e reprise dans un instant.
Joseph Parker
qui tient, qui vient chercher le combat vraiment au corps à corps, quitte à prendre des coups d'Anthony Joshua, mais il se montre vraiment dangereux et envoie pleine puissance dans ses coups. Joseph Parker, il résiste à la classe d'Anthony Joshua, et Anthony Joshua qui est un peu dégoupillé, l'arbitre avait interdit aux deux boxeurs de se frapper puisqu'ils étaient pris les bras l'un dans l'autre. Il avait demandé le break et Joshua qui a déclenché un uppercut atomique alors que l'arbitre avait dit qu'on ne devait pas se frapper. Les deux garçons qui ont été réprimandés. Et là, il aurait couché un bœuf, Anthony Joshua, avec cet uppercut. Mais par contre, il n'a pas bronché. C'est parti pour la 8e reprise. Toujours avantage pour Joshua.
A déjà essayé, parce que je la connais,
de coucher un bœuf.
De coucher un bœuf.
Non, qu'est-ce que quelqu'un a déjà essayé de coucher avec un bœuf? Là, bon, c'est
là,
fort,
là,
mon gars.
Là, tout de suite, là, je te laisse avec ça. Oh, mais est-ce qu'un mec a déjà essayé de mettre une patate à un bœuf pour voir s'il le couche?
Non, à chaque mais fois, j'imagine le mec qui est suffisamment con pour le faire.
Mais est-ce que c'est possible?
Par contre, mettre une patate à Buffett, là, il n'est pas loin.
Attends, on l'a inspiré ce soir, Yann. Oui. On l'a inspiré, qu'est-ce qu'on est bon ce soir?
Le mari de Marie-Georges.
Tiens, ouais, exactement. Z, il y a Z qui réagit sur le hashtag RMC Live. Morgan, question pour toi concernant ce combat entre Joshua et Parker. Il nous dit, Z, moi je ne vois pas Joshua aussi serein que d'habitude.
Non, parce qu'il est beaucoup dans la provocation. C'est pas son style. Ça veut dire qu'il est gêné par la boxe de Parker. Et on sait qu'Anthony Joshua, c'est un garçon, même s'il fait autour de 110 kilos, c'est un poids lourd. Il est très actif. Il donne beaucoup de coups dans chaque reprise. Il est capable de donner plus de 30 directs du bras avant. Et ça, il ne le fait pas. Ça veut dire que la boxe de Joseph Parker, pour l'instant, l'embête. On a vu peu de coups puissants d'Anthony Joshua lorsque
c'est vrai.
Poids lourd de très haut niveau. Il boxe sur un coup, deux coups, mais jamais plus. Il n'arrive pas à cadrer Parker, qui lui tourne autour depuis le début dans le sens des aiguilles d'une montre. Jamais il l'a coincé contre les cordes ou dans l'angle du ring pour pouvoir délivrer des séries. C'est la technique de Parker pour l'instant, qui est d'emmener peut-être Joshua le plus loin possible, qui marche pas mal.
Et il se baisse tout le temps, t'as remarqué, Parker, à chaque fois.
Déjà la 8e,
il se baisse tout le temps. Ouais.
La 8e reprise.
Hein. Il est plus petit et il rend 6 cm à Anthony Joshua.
Mais au point, il est en avance là, Joshua.
Oui, avance de Joshua. J'ai fait mon petit pointage personnel. Je vous le donnerai à la fin pour voir si je suis dans la vérité par rapport aux trois juges qui sont autour du ring. Mais avantage Joshua pour l'instant.
Merci Morgan Mori. On va accueillir Fatan, on va faire l'évaluation.
Nico, là, t'as vu là, regarde Joshua, le petit tatouage qu'il a dans le dos là. On dirait le petit machin écusson sur le maillot du Portugal là.
Tu trouves, toi?
Ah, putain. Mais...
C'est quoi ce qu'il a? Morgane, mène l'enquête, je sais. Tu sais que j'en ai un, moi, au même endroit, là.
Il est pas un peu portugais par hasard, là?
Je sais pas, mais j'en ai un au même endroit. Mais je pense pas qu'il est sur le même.
Une carte de l'Afrique sur le bras, si tu
veux. Ouais,
sur le bras.
Non,
la croix.
Dans la nuque, sur la nuque.
Sur la nuque, là, derrière.
La croix, tu parles.
Pas un peu du Cap Vert.
Le truc qu'il y a sur le maillot, là, l'écusson, là.
Ah, au
coude. Ouais. Regarde dans le dos, là.
Le public qui s'en fout,
Le public qui s'enflamme enfin pour Anthony Joshua parce qu'il avait coincé Joseph Parker. Il y en a une qui est passée, une belle l'uppercut, c'est sa spécialité Anthony Joshua. C'est comme ça qu'il avait anéanti les espoirs de Vladimir Klitschko il y a un an. Mais cette uppercut n'a pas été assez dangereux. 8e reprise, 15 secondes encore dans cette 8e reprise.
Ah si, c'est vrai que ça ressemble, t'as raison.
Voilà, tu vois que ça ressemble.
Ouais, en fait c'est la croix des navigateurs avec Ashkin, en fait. Les 5 qui représentent, voilà, bref. On va pas faire le rappel. On va accueillir Fatah, on va revenir, on va continuer. On va faire l'évaluation de la finale de la Coupe de la Ligue, messieurs. Oui. Victoire du PSG 3-0, on vous le rappelle, face à l'AS Monaco. Salut Fatah.
Salut.
Salut Fatah.
Ça va?
Fatah,
le bouzouka. Ça va et vous?
Bah écoute, ça roule.
Donc, alors.
T'es là ou pas, Fatah?
Ouais, je suis là, je vous entends.
Tu conduis ou quoi là? On dirait que t'es dans une bagnole.
Non, je suis à la maison, j'ai les enfants qui dorment à côté.
Ah, voilà, ok. Comment ils s'appellent tes enfants?
Alors, il y a Mohamed, Safia et Meïssa.
Voilà, t'as bien bossé. C'est bien, c'est bien, Fatah. Alors, on va faire l'évaluation avec toi. Quel joueur t'a vraiment marqué, toi, dans cette finale, Fatah?
Bah, Mbappé, sans hésitation. Mm-hmm. Gros match, vraiment, disponibilité, toute simplicité. Parce que, vraiment, là, sans pression, vraiment les premiers matchs, comme l'année précédente avec Monaco, là, vraiment, il s'est lâché. C'est vraiment agréable. Notamment avec la passe qui fait à Di Maria. Mm-hmm. Dédicace un peu à Libénarbia, puisque c'était son marque de fabrique. Mm-hmm. Donc, ça, c'était pas mal. Et puis tout simplement, franchement, bien. Sérieux, appliqué, l'équipe du PSG. Et puis, 3-0, ils s'en sortent vraiment bien. Parce que, avec tout ce qu'a raté le PSG, 4, 5, 6, la défense du Monégasque qui était vraiment aux abois. À chaque fois, on aurait pu penser qu'ils en rajouteraient un. Donc voilà, pour ce point-là, Mbappé sans hésitation.
Si vous deviez ressortir une individualité, Daniel et Ali, vous ressortiriez?
Moi, je l'ai dit, moi j'ai dit Cavani, dans le sens où moi j'aime bien regarder ce que pas tout le monde regarde, c'est ce qui se passe avant l'action, les déplacements offensivement, c'est ce qui permet les espaces pour les passes et qui permet aux joueurs de créer des espaces. Et ce que fait Cavani dans les redoublement d'appels et de pouvoir se retrouver toujours devant le but permet à Mbappé, à Di Maria de profiter de tout. Et ça, et si en plus il fait un travail comme ça, ce que faisait un peu Germain des fois, mais multiplié par trois, mais en plus finir les occasions, ce que fait un petit peu moins Germain, et là, quand t'as la chance d'avoir un attaquant comme ça, pour un joueur offensif, c'est cool, du plaisir.
Puisqu'il prend tous les espaces, tout dans ce combat, c'est dingue, je suis d'accord aussi. Ouais.
Et à l'inverse, Fatah, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a déçu dans cette finale, toi?
Ben, mon Casper à moi, c'était Lema, inexistant jusqu'à au bout de 20 minutes, puisque je l'ai vu récupérer un.
Globalement, les internationaux français de Monaco, parce que Sidibé, c'était pas terrible non plus.
Ça a été dur aussi pour lui.
Sidibé, très compliqué, Sidibé.
Le ballon, Lema, je l'ai vu au bout de 20 minutes, quand il a récupéré un ballon où Rabiot était en train de le presser. C'est là que j'ai remarqué qu'il était là.
Ouais, c'est vrai.
Fatah, si on peut continuer, un joueur que j'ai adoré moi et que je militais pour qu'il vienne au PSG, ce soir, Fabinho, je l'ai pas vu. Ouais. J'ai pas vu le patron Fabinho, le cerveau de Monaco, le patron. Je l'ai pas vu, même si cette année ça a été un peu plus dur pour lui. Mais là, je m'attendais vraiment que face au PSG, il leur montre un petit peu ce qu'il était capable de faire. Et dans l'impact, dans l'agressivité et dans l'intelligence de jeu, j'ai pas reconnu Fabinho.
Il était constamment en retard, en fait, puisqu'à chaque décalage, les jeux à une touche de balle, Verratti, Dani Alves sont régalés. Il était complètement débordé. Faute sur faute, il a fait. Donc, après, c'est comme. Ils étaient dépassés. Vraiment, les coups de boutoir aux Parisiens, au moindre ballon que ils se faisaient aspirer dans le dos, c'était. C'était une boucherie avec Mbappé.
Vraiment au-dessus.
Merci de nous avoir appelé, Fatah.
Merci, Fatah.
Ouais, merci bien. Bonne soirée à vous.
Bonne nuit à toi, Fatah. Bientôt, Fatah. Salut.
À bientôt. Salut.
On retourne du coup. Si on doit parler de. Ah oui, il faut retourner voir Morgan.
On y va vite fait. On fait un petit point avec Morgan Mori. Joshua Parker, le combat qui se déroule à Cardiff, Morgan.
Fin de la 9e reprise. Joseph Parker, le néo-zélandais, champion du monde WBO, qui cherche le coup dur sur vraiment très peu de coups. Il prend énormément de risques dans ses positions lorsqu'il vient s'approcher au corps à corps d'Anthony Joshua. Joshua qui a testé son uppercut plusieurs fois dans cette dernière reprise. Une fois, c'est passé, il faut pas trop qu'il joue avec le feu Parker, mais il sent qu'il est peut-être en retard au pointage. Il est prêt à tout risquer pour aller prendre les deux ceintures d'Anthony Joshua, et Parker qui se jette tête en avant sur Joshua, c'est interdit, il a été réprimandé par l'arbitre. Fin de la 9e reprise de ce championnat du monde des poids lourds. On entre dans le dernier quart de combat, 3 ceintures mondiales en jeu. Pour la petite anecdote, Joshua n'a jamais dépassé le 11e round dans sa carrière. On va voir si Parker réussit la performance de l'emmener dans une 12e reprise.
Merci Morgan, nous reviendrons dans quelques instants, on va revenir sur la première affiche de la 31e journée de Ligue 1 de ce week-end. Marseille s'est imposé 3-1 face à Dijon, ça n'a pas été aussi facile que ça pour les Marseillais. On vous attend pour en parler au 32-16, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, Daniel Riolo également est avec nous, after exceptionnel jusqu'à 1h du matin. Il y a le combat entre Joshua et Parker en ce moment même au Millennium de Cardiff. C'est Morgan Mori qui est sur place pour nous. Morgan, j'ai enquêté. T'es là ou pas?
Oui, bien sûr, Nicolas.
Tu sais le fameux tatouage là, dont parlait Daniel là, oui. Dans le haut du dos d'Anthony Joshua. En fait, c'est un lion et c'est exactement le même écusson, non pas que celui de l'équipe du Portugal, mais que les Pays-Bas. C'est un lion, mais c'est exactement le même.
La Grande-Bretagne a un lion, l'équipe olympique de Grande-Bretagne a un lion aussi sur ses armes. Et Parker, qui est en difficulté, 10e reprise, il est ouvert au niveau de l'œil gauche, ça doit gêner sa vision et surtout empêcher de voir les crochets du droit d'Anthony Joshua. Et le sang commence à couler sur la joue du boxeur néo-zélandais, Joshua qui est rappelé à l'ordre, mais là il a un boulevard devant lui pour remporter le championnat du monde avec cette blessure de Parker. Les deux garçons qui se tapent dans les gants à la fin de cette 10e reprise. Il est en contrôle, Anthony Joshua, on aimerait plus, mais il contrôle pour l'instant ce combat. Il a ligoté Joseph Parker dans la deuxième moitié du match.
Merci Morgan. Simone Rovera nous a rejoint dans quelques instants. On ira du côté de l'Italie où le suspense perdure. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir. Gros suspense quand même.
Suspense.
Jusqu'à 10 minutes de la fin.
C'est vrai?
Ouais.
Il y a eu du suspense aujourd'hui en Ligue 1 également. Tu vois que t'es mauvaise langue. Victoire de l'Olympique de Marseille 3-1 face à Dijon. Oui, mais voilà, Marseille a marqué le premier à la 36e. Égalisation à la 73e du Sud-Coréen Kwon. Puis Ocampos a donné l'avantage, redonné l'avantage à l'OM à la 88e. Alors il y a eu un péno raté de Marseille dans le temps additionnel. Et finalement, Payet en a transformé un autre dans le temps additionnel. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Dijon. Dijon, on en parlait hier d'ailleurs, Ali, qui est l'une des meilleures équipes à domicile cette saison. Marseille a galéré cet après-midi.
Ah bah, on le savait.
On avait terminé sur le PSG.
Oui, ça y est.
Ah, on devait parler du milieu de terrain, du positionnement de Rabiot.
Il fallait se réveiller pour mon gars.
Ah bah réveiller, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Ouais, c'est pareil, on part en France ça, cette semaine. Allez, c'est
pareil. Tout ça pour ça, merci.
Ah non, si on a vu Rabiot en 6 et il faudra dire un jour que c'est vraiment son meilleur poste quand même. Ouais. Bon, bref, passons.
Mais par contre,
même si c'est son meilleur poste,
je préférerais un style de joueur comme Fabinho ou Casemiro et avec Rabiot devant. Et là, par contre, t'as du lourd.
Non, moi, je Rabiot, pense. Soit tu fais carrière en 6 là comme ça, soit au PSG.
Tu penses qu'il y arrivera
pas. Il le dégage, tu veux dire?
Bah,
il
a pas sa place. Sans quoi, tu trouveras quelqu'un d'autre de meilleur, quoi. Mais si tu dois le garder dans cette config-là, c'est en 6. Ce soir, il est encore très bon dans cette position et il est souvent très bon quand il joue là.
Mais, voilà. peut-être que c'est en train de
tout
mûrir.
Ce cirque qu'on a fait au milieu de terrain avec la recherche du 6 et Mota blessé et Las Diarra qu'on fait venir et Lo Celso qu'on essaye là dans, malheureusement, contre le Real et tout. C'était point barre Rabiot qu'il fallait mettre là.
Mais
voilà.
Est-ce que ça
mais
va
c'est pas fini? Tu parles comme si c'était.
Non, c'est pas ça.
C'est pas fini. La saison, maintenant, il reste quoi?
Non, mais je veux dire, non, mais non. Peut-être que ça, comme dit Ali, ça peut mieux voir dans
moi
sa tête.
Je pense que c'est dur à accepter des fois pour un joueur qui partait. Enfin il a débuté, 17, 18 ans, je l'ai vu jouer, moi, pratiquement milieu offensif. Et que tu veuilles pas, Daniel, c'est dur à mûrir pour un joueur de se dire.
Si, c'est la façon quand il a le jeu devant lui, ses accélérations,
c'est pas ça, Daniel. Sauf ce qu'il se rend compte, c'est qu'au haut niveau. Ben peut-être qu'il n'a pas les capacités à jouer ce fameux 8 et demi.
Non mais
l'intelligence de joueur c'est quoi après au niveau
de comprendre c'est de où tu dois jouer,
de se rendre compte que ta meilleure place où tu vas
que sa maman comprenne déjà le foot et
non mais déjà lui passer. Je pense pas que c'est sa mère lui, c'est lui souvent, il est assez grand.
Bon, allez, on passe à l'OM à Dijon. Allez.
Alors on y va, victoire donc 3-1 de Marseille à Dijon. Ali, t'allais dire?
J'allais dire simplement.
Toi qui habillé en Dijonais aujourd'hui. Comme tout de rouge.
J'allais dire que cette équipe de Dijon embête énormément d'équipes. On l'a vu contre Monaco. On le voit contre Marseille ce soir. Et la différence des Dijonais, c'est que au moment où ils sont 1-1, ils ont oublié qu'ils étaient Dijon, qu'ils étaient à domicile et qu'un match nul, c'était top. Ils ont voulu aller chercher ce deuxième but au moment où c'était là qu'il fallait peut-être gérer, faire tourner et faire courir cette équipe marseillaise. C'est dommage pour Dijon parce que ça aurait été bien pour eux de ressortir avec un point face à cette équipe de Marseille. Et là, en oublier côté Dijon, ben à la fin, sur une petite action, ben ça te fait 2-1, puis 3-1, carton rouge, et c'est dommage pour eux.
Daniel.
Marseille avance vraiment en ce moment. Comment dire ça? Vraiment doucement. Dans le sens où là, ce soir, ça tourne bien pour eux.
C'est un trait délicat partout, par contre, très physiquement.
Et c'est ça, le problème.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, rappel, sorti sur blessure de Mandanda, de Rami et de Balmont du côté de Dijon.
Ils s'en tirent bien, tu vois. T'as l'impression que c'est au bout du bout. Ah! Ils arrivent à gagner ce match. Ok, ça passe aujourd'hui. Mais tu perds encore des joueurs. T'es fatigué, t'as la Coupe d'Europe cette semaine et on a l'impression que vraiment là ils arrivent dans la période la plus difficile de l'année, celle où la décision se fait et les positions sont importantes et ils sont petit à petit, alors ils ne craquent pas, ils ont remis 5 points à Lyon, Lyon joue demain mais ils leur remettent quand même un peu de pression, ils obligent Lyon à gagner. Alors ça ne présage rien de l'état de forme qui va être celui des Lyonnais sur la fin, peut-être qu'eux aussi peuvent craquer, mais comme ils se sont libérés de la Coupe d'Europe, involontairement en tout cas, ils vont peut-être être un petit peu plus tranquilles.
Toi, t'as peur de Marseille, dans quel état ils vont arriver?
C'est Marseille, c'est l'état dans lequel
ils vont terminer la saison.
Voilà, dans quel état là maintenant ils avancent. Et là, quand ça commence à se faire, 88e là, et tu perds, tu vas jouer sans Mandanda, sans Thauvin, donc dès jeudi en Coupe d'Europe, hein. Donc ça commence à être un petit peu tendu pour Marseille. Ça passe, mais. Ça devient très délicat quand même.
Il va y avoir une 12e reprise, messieurs, pour la première fois dans la carrière d'Anthony Joshua. Il est poussé dans le 12e et dernier round. Et peut-être pour la première fois de sa carrière, puisque 20 combats, 20 victoires, 20 KO pour Anthony Joshua, et qui a été extrêmement généreux dans cette 11e reprise.
Et Apollo Creed, il n'avait pas supporté de gagner au point.
On sait comment elle a fini.
Il avait mal vécu. Hein.
C'est parti pour la 12e et dernière reprise de ce championnat du monde unifié. Anthony Joshua, qui est en tête normalement dans ce championnat du monde. 3 ceintures mondiales en jeu. Parker, toujours short blanc et noir, qui continue sa tactique, qui tourne autour d'Anthony Joshua. Mais tous les jabs maintenant, tous les bras avant, le bras gauche à chaque fois d'Anthony Joshua vient toucher la cible, et la tête de Parker qui est projetée en arrière sous les coups de butoir du champion britannique de 28 ans. Il passe, le percute Anthony Joshua, ça aurait pu faire très mal, ça aurait pu emmener son adversaire au sol. Il le coince contre les cordes, une tente, une droite et une gauche derrière, et Parker qui va chercher l'accrochage. Il faut le coup dur pour Joseph Parker pour essayer de déstabiliser l'icône Anthony Joshua. Il va rapidement au corps à corps, Parker, et travaille dans les abdominaux d'Anthony Joshua. Ça ne touche pas, il est en contrôle, le champion
champion britannique. Encore 2 minutes dans cette 12e et dernière reprise. Le jab encore une fois qui passe pour Anthony Joshua qui contrôle tous ses efforts, mais chaque fois qu'il essaye de lancer son bras droit qui est son bras arrière avec un crochet, on sent qu'il développe le maximum de puissance pour essayer de toucher, de faire mal à Joseph Parker, dont la blessure à l'œil gauche a été soignée lors de la coupure entre la 11e et la 12e reprise. Toujours Anthony Joshua qui marche sur son adversaire, qui essaie de le coincer dans les cordes. Il est pris dans l'angle du ring. Joseph Parker, il a les mains un peu basses et derrière avec cette uppercut du gauche, Anthony Joshua qui vient travailler le menton de Joseph Parker. Encore 1 minute 33 à tenir pour Parker, et l'aura emmené Anthony Joshua au bout de 12 rounds dans un championnat du monde. Ce sera une première, mais il repartira vraisemblablement sans les ceintures. Le combattant Samoan qui est néo-zélandais, il vient s'accrocher encore une fois Anthony Joshua au centre du ring, qui vient essuyer un peu de sueur avec ses gants sur son front. Anthony Joshua encore une fois, le jab qui passe, il travaille avec le bras droit et le petit travail de jambe de Parker pour sortir de l'axe et éviter d'être cadré, d'être frappé par toute la force d'Anthony Joshua. Encore 1 minute et 3 secondes dans cette 12e et dernière reprise. Le jab de Joshua qui avance sur son adversaire, il la coince, il ne donne que le jab. Anthony Joshua en contrôle et essaye de partir en crochet, en cross même, au moment où Parker s'approche de lui. Ils sont séparés par l'arbitre. Encore une fois, Parker qui a foncé tête baissée, c'est interdit, les chocs de tête sont prohibés en boxe. Anthony Joshua toujours au centre du ring, le regard, l'œil parfaitement vif, parfaitement lucide, ça se voit, le visage totalement touché de Joseph Parker, pas du tout la même attitude, ça sue à grosses gouttes du côté de Parker, ce qu'on dit que Joshua est pratiquement aussi beau que la première reprise lorsqu'il est monté sur ce ring du Millennium Stadium de Cardiff. Encore 23 secondes et ce sera la fin de ce championnat du monde poids lourd entre Joshua et Parker. On est dans l'angle du ring et Anthony Joshua qui a coincé son adversaire, est-ce qu'il va essayer d'en finir de lâcher un dernier beau coup, et est en contrôle avec le jab, le bras gauche qui passe et le public qui s'en hardit parce qu'il reste 15 secondes dans ce championnat du monde. Il passe l'uppercut Anthony Joshua, les deux hommes qui sont séparés une nouvelle fois par l'arbitre, et Anthony Joshua qui a voulu frapper alors que le commandement n'avait pas été donné. La cloche qui retentit, fin de ce championnat du monde des poids lourds. Les deux hommes qui se prennent dans les bras, Anthony Joshua sourire de satisfaction, il a quand même levé le sourcil à la fin, ça a dû être dur pour le champion britannique, et Joseph Parker qui vient d'en terminer, le champion du monde WBO. On va connaître les cartes des juges dans un instant. 10 points pour le vainqueur d'un round, 9 points pour le perdant. On fait l'addition des cartes et on a le total. Ça tombe dans un instant, messieurs.
Eh ben écoute, tu nous diras ça dans quelques instants, Morgan. Merci beaucoup. Tiens, on va écouter Rudy Garcia, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a eu pas mal de pépins physiques du côté de l'Olympique de Marseille ce soir, enfin cet après-midi même d'ailleurs. Rami qui a été blessé au quadriceps, Mandanda également, Rudy Garcia qui fait le point sur l'infirmerie.
Mais on a 2-3 joueurs qui sont en souffrance, Steph qui a dû sortir sur un jeu long et qui souffre du quadriceps, alors on verra. C'est pas bon signe quand on sort dans ces conditions-là, mais on est obligé d'attendre les examens médicaux de demain ou d'après-demain pour en savoir plus. Pour Adil, c'est un problème musculaire au mollet, donc on espère que ce soit pas méchant non plus, qu'il soit arrêté à temps. On pensait tous sur le banc que c'est Rolando qui sortirait, parce qu'à la mi-temps déjà, il nous avait alerté d'un problème de tendon d'Achille, et puis finalement, il a été courageux, il a pu aller jusqu'au bout, voilà, c'est les problèmes du soir.
Hey, ça te fait quand même Mandanda qui va être
la défense centrale,
out, plus la charnière.
Donc ça, t'as le triangle là.
Il y a le RB Leipzig qui arrive en Ligue Europa dans quelques jours.
Eux, ils sont frais, je le dis.
Ouais. Ils ont gagné d'ailleurs, je crois.
Eux, ils sont organisés. C'est un club très organisé, très frais. Eux, ils sont prêts pour ces fameux.
Il y a une 3-2 à Hanovre.
Ces fameux quarts de finale, la seule équipe qui a battu le Bayern. Donc ils vont arriver, je peux te dire, avec les
dalles. Là pour jeudi, donc. Rami.
Mandanda, apparemment, c'est plusieurs semaines. Hein, si
ouais, Mandanda, c'est sur Rami, ça demande juste. Examen. Ouais. Juste. Mais quand même, pour jeudi, ça paraît compliqué, sachant que championnat après. Thauvin, sûr, pas la jeudi.
Rolando, ouais. Qui peut être forfait aussi, parce que c'est le tendon d'Achille.
Ça vous fatigue un peu maintenant. Là.
Non, mais ça fait beau. Non, mais
c'est
déjà,
ça fait beaucoup. Ça
déjà,
fait beaucoup.
Déjà, même en étant complet et bon, contre les psys, c'est dur.
Contre les psys, c'est dur.
Mais là, Mandanda, Rami, Thauvin. Ça va être dur.
Allez, oui, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Ouais.
Dans quelques instants, la décision, messieurs. Écoutez la décision par Michael Buffer.
Morgan Murray.
La décision unanime et décision unanime. Ouais, le vainqueur est champion du monde des poids lourds, trois ceintures maintenant. Anthony Joshua, le lion de la Grande-Bretagne. 118 à 110 pour le premier juge et 119 à 109 pour le deuxième. J'avais donné deux rounds à Joseph Parker. Anthony Joshua qui a levé les bras au ciel et tout le public du Millennium Stadium de Cardiff qui acclame son champion et qui vient chanter la chanson des White Straps. Et Anthony Joshua qui est à 5 mètres de moi et qui montre la ceinture qu'il vient de voler, qu'il vient de capturer, de kidnapper à Joseph Parker, la ceinture WBO. Il vient de la montrer à son public et on vient lui passer autour des bras ses autres ceintures, la ceinture WBA, la ceinture IBF et la ceinture mineure IBO. Anthony Joshua, 3 ceintures mondiales sur 4, le prochain défi, allez voler la WBC à Dante Wilder, la bête américaine.
Merci beaucoup Morgan. Merci de nous avoir suivi cette soirée ce combat entre Joshua et Parker.
Bye bye.
Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bah voilà. Première victoire donc sans KO pour Anthony Joshua dans sa carrière de boxeur. On va finir en Italie maintenant les gars. Mais avant, on va
Non, c'est un peu la même chose, je voulais te dire, bon.
Fais l'anti-teasing là, vas-y. On te retrouve dans quelques instants, vas-y. Donne envie aux gens de rester, d'écouter, de parler
de la
série.
C'était une victoire au deuxième round pour la Juve, sans KO, parce que Milan a été un très bon compétiteur. Mais les champions, c'est plus fort, plus costaud, et on l'a vu ce soir.
C'est pas vraiment un teasing, mais ok.
On aurait dit une femme plus qu'un teasing. Hein.
Vas-y, dis aux gens à tout de suite et tout machin. Tu fais ça lancement.
À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia, Daniel Riolo et Simone Rovera sont avec nous. After exceptionnel jusqu'à 1h du matin. Il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue il y a quelques instants. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'AS Monaco. Joshua vient de battre Parker. C'est de la boxe poids lourd au point. Voilà, il a battu au 12e round.
Donc il lui reste plus qu'une ceinture alors, c'est ça?
Je sais pas.
Si,
c'est ça.
Contre Wilder.
Il reste une... Contre eux
Wilder. Ouais, c'est l'américain, ça. Le sauvage.
Voilà, tu t'y connais mieux que moi.
Complètement.
Voilà, du cul, là. WBC, ouais. Okay. 30e journée de Serie A. Là, c'est déjà mieux. Là, je vais bien m'en sortir. C'était cet après-midi. D'ailleurs, tous les matchs se sont joués aujourd'hui, d'ailleurs, en Italie.
Demain, on joue pas.
Donc, oui, c'est pas
en Italie, on
c'est
joue pas
Quito. Ah, au Portugal non plus, je crois.
Bah, évidemment.
Bah oui, c'est pas Quito. C'est vrai qu'on est des pays catholiques à la base, tout ça. Là,
ouais, c'est vrai, ça s'appelle des traditions, une culture.
Je suis pas sûr qu'on peut les gâcher ou pas demain. Je vais regarder quand même.
Non, ils jouent pas.
Ils jouent pas demain.
Non, ils sont en train de chercher les œufs là. Regarde, ils cherchent les œufs.
Si, ils jouent pas demain.
Comment on dit les œufs en
Portugal? Simone, cet après-midi, match nul du Napoli à Sassuolo, un but partout. Et ce soir, la Juve a battu Milan 3-1. Belle opération pour la Juve et du coup au classement. 4 points d'avance pour la Juve sur le Napoli.
Superbe opération si on pense que la semaine dernière il y avait la trêve, mais il y a 2 semaines il avait perdu 2 points face à la Spal et la Juve, et ce soir ils ont chaussé, on peut dire, les deux pires ennemis de la saison. Naples, bien sûr, ils ont repris 2 points, et les fantasmes de Leonardo Bonucci.
Ils ont combien d'avance maintenant?
Ils ont 4 points d'avance. Et les 22 avril, il y aura les...
Même si Naples fait l'exploit le 22.
Ouais, ça va être très compliqué.
Fallait qu'ils restent proches.
Le rêve absolu, vont
Naples,
pas y arriver.
Dans 2 semaines, doit encore aller jouer à Milan face au Milan, qui ce soir a été très, 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 très bon. Si la Juve va gagner, c'est parce qu'elle a des meilleurs joueurs qui sort du banc, parce que quand tu fais sortir Douglas Costa et Cuadrado, ça t'échange un peu les choses, surtout que c'est Cuadrado qui marque le but décisif, et Douglas Costa qui met toutes les accélérations, qui ont vraiment cassé les rênes aux défenseurs du Milan. Milan, au top niveau pour une heure. Après, il y a eu une différence physique, et surtout dans les changements. Quand tu fais rentrer, j'ai dit Douglas Costa, et l'autre font rentrer Montolivo ou Kalinic, c'est pas la même chose. Mentalement, Naples, je pense qu'il a perdu énormément, mais déjà avant, parce que
Naples qui était mené en plus face à Solo.
Qui était mené, mais on voit pas des réactions côté Naples. C'est-à-dire, oui, ils ont arraché un match nul et dans la fin du match, ils ont pris une barre transversale avec Milik. Mais tu vois que c'est pas la même tranquillité, pas même la même sérénité. Il arrive devant le but.
Mais comment tu l'expliques ça, toi, justement? Qu'est-ce qui a changé alors pour que cette équipe elle lâche
le moment décisif s'est rapproché et l'effet d'être devant donnait un peu de liberté dans l'esprit, l'effet de voir la Juve revenir à commencer à les inquiéter. Et là, tu vois que chaque ballon poids 3 tonnes de plus. Tu vois un signé qui arrive devant le but, il n'arrive pas à marquer. Même des buts que dans la première moitié de la saison, il marquait tranquillement. Mertens, c'est un signé, ça fait 3 matchs qu'il marque plus. C'était jamais arrivé dans la saison. C'est vraiment un moment où tu te rends compte que gagner, C'est pas seulement de septembre à janvier, c'est de avril. Et là, tu vois que c'est très compliqué, peut-être trop compliqué pour cette équipe des Naples, qui n'a pas dans son effectif des joueurs qui sont vraiment habitués à gagner, sauf Reina, Albiol, mais qui sont pas eux qui transmettent la mentalité aux autres. Et la Juve gagne, arrive à gagner même un match où tu mènes 1-0 et il y a Bonucci qui marque le but, qui fait égalisation, donc un peu les pires scénarios possibles avec Bonucci qui va célébrer devant ses supporters un peu dans la gueule vraiment des supporters de la Juve, oui, ouais. Parce qu'il a pris tellement de sifflets, tellement d'insultes.
T'en parlais hier d'ailleurs de ça. Tu disais que c'était son match aujourd'hui.
Mmh. Bah, et il a fait un très bon match, Bonucci. Après, quand tu as de ton côté certains joueurs et t'as pas l'autre, c'est plus compliqué de gagner. Bonucci peut pas gagner le match tout seul.
On parlait, Daniel, de milieu terrain, tu vois, de haut niveau. Là, tu vois, là, c'est qui met le but, c'est Khedira. Khedira, un joueur qu'on oublie de parler et qui revient,
qui fait au bon moment,
au bon moment,
et
le
Champions League et pour la Coupe du Monde. Le plus gros défaut de Khedira, c'est les blessures au final.
Oui,
il a
eu
beaucoup de pépins en Real, mais sinon, c'est un super joueur.
Mais ça reste un défaut. Je veux dire, ça reste un défaut. Mais là, il revient au bon moment pour la Champions League et pour la Coupe du Monde. Et ce style de joueur, c'est ça qui est. On parlait du Paris Saint-Germain pour en revenir. C'est ce style de joueur que tu as besoin, dont tu peux compter, que tu n'as peut-être pas.
Bah oui, parce qu'il y a ces
au niveau de mentalité, c'est quelque chose qui est dans les grands clubs.
C'est un champion du monde, c'est un joueur qui sait quand il doit être présent. Et ça fait 2 mois qu'il est un peu caché, il est pas au top niveau. Les supporters de la Juve, ce soir, ils l'ont sifflé à un certain moment. Il a arrêté quelques passes de plus, ils l'ont sifflé. Et dans les dernières minutes, c'est lui qui met de la passe pour Cuadrado, et c'est le mec, lui, qui marque le but décisif. C'est vraiment là où tu te rends compte qu'il y a une écart immense entre les banques de la Juve et les banques du reste du monde. Parce que il y a des joueurs qui peuvent s'asseoir
c'est
sur
ce
les banques.
C'est ce qui fait la différence dans une saison entre les grosses équipes qui gagnent, c'est les mecs que tu peux faire rentrer, de quelle qualité ils sont, quoi.
Et puis le banc de la Juve, je suis désolé, la qualité des joueurs, c'est quand même assez énorme, parce que ils visent pas de se qualifier pour l'écart, la Juve. Ils ont un effectif pour vouloir gagner la Champions League, pas pour jouer en finale. Et je pense que cette équipe-là, il va falloir faire attention.
Tiens, rien qu'aujourd'hui, bon, t'as Rodrigo Betancourt qui rentre pour la Juve, t'as Cuadrado et Douglas Costa.
Ouais, c'est ça.
Combien de clubs ils sont titulaires, Cuadrado
et quand il rentre, on est encore un partout, et c'est Pjanic qui sort. Pjanic qui est suspendu face au Real, donc tout le monde se demandait, mais pourquoi? Bah, parce qu'Allegri voulait mettre quand même.
Pjanic, tu joues pas le match aller cette semaine, là?
Ni Pjanic, ni Benatia. C'est très compliqué.
Ça, c'est un handicap, ça, quand même.
Même si
qui va jouer à la place de Pjanic? Ils vont jouer comment au milieu?
On doit voir si une joueur 3. Avec donc Betancourt peut-être à sa place, ou repasser en 4-2-3-1. Mandzukic n'a pas joué aujourd'hui parce qu'hier a pris un coup au genou, mais rien de grave.
Parce que c'est un joueur important dans la construction du jeu, que la première passe,
oui,
c'est souvent lui.
Tu peux faire en sort que ce soit Dybala qui joue un peu plus bas dans les 4-2-3-1. Donc Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa et Higuain, ou Mandzukic, Douglas Costa, Dybala et Higuain.
On dit que le PSG.
C'est quand, mardi ou mercredi celui-là?
C'est mardi soir.
Mardi.
Mercredi, il y a Roma-Barça. Et mercredi, il y a aussi le derby de Milan, qui, attention, ça va risque de devenir décisif. Oui.
Il le met à quelle heure? 18h?
18h30, risque d'être décisif pour Milan, qui a 8 points de l'Inter, qui a gagné cet après-midi. Et en cas de défaite, ce serait la fin de la Ligue des Champions pour Milan.
D'ailleurs, il y avait un choc en Allemagne également cet après-midi. Le classique entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.
Explosé.
David Lortolari est avec nous. Salut David.
Allô, Fred. Salut, messieurs.
Salut, David.
Alors, David, n'importe quoi, victoire 6-0 du Bayern face à Dortmund. En plus, il y avait un vrai enjeu pour Dortmund qui devait gagner pour espérer passer devant Schalke, ou du moins
ce qu'on disait hier soir, oui.
Exactement. Et du coup, Schalke a gagné cet après-midi, mais Dortmund, qu'est-ce qui s'est passé? C'était mené 5-0 à la mi-temps.
Anéantissement, massacre, dévastation, ruine, abolition, élimination, révocation, tuerie, écroulement, effondrement. J'ai tapé synonyme.com pour pouvoir être à la hauteur ce soir.
Est-ce que t'as tapé podcast RMC ou pas? Parce que Jérôme Thomas vient de me le rappeler. On rappelle ton avis de tranché d'hier soir. C'est le moment pour Dortmund d'aller embêter le Bayern.
Ah, c'est le moment de prendre une tôle.
Écoutez, c'est un truc de dingue.
C'est le moment de prendre la fessée.
C'est un truc de dingue, messieurs, parce que du coup, j'ai été fouiller un peu les archives et les statistiques. Jamais le FC Bayern n'avait mené 5-0 à la mi-temps en Bundesliga. Jamais.
Ah ouais,
ça ne s'est jamais produit.
Ah, c'est dingue ça.
Même lors du 11-1 que ce club avait infligé à Dortmund en 71, il n'y avait que 4-0 à la mi-temps. Et donc c'est un truc de fou qui s'est passé aujourd'hui. C'est la plus grosse défaite du Borussia en Bundesliga depuis février 91. une défaite à Stuttgart, 7-0. Il y a eu un 12-0. On en parlait tout à l'heure quand on préparait l'émission avec toi, Nico, et c'était en 78, un 12-0 que le BVB avait encaissé à Mönchengladbach avec 5 buts de Monsieur Jupp Heynckes, qui est l'entraîneur du Bayern actuel.
C'est marrant, ça.
Mais c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé là. Et en plus, messieurs, rendez-vous compte, c'est la première défaite en championnat de Dortmund sous Peter Stöger.
Ah ouais?
Eh oui.
Eh oui, ils étaient super bien. Mmh. Là,
dis-moi, j'ai une question.
Ribéry a marqué un petit.
Oui, j'ai vu. David, j'ai une question. Robben.
Eh ben, Robben, ça n'a pas été le joueur le plus exceptionnel.
Non, je sais, mais comment il est?
Oh, il est pas mal, mais il est toujours.
Physiquement, ça va? Parce que lui, c'est les derniers matchs qu'il a.
Là, il avait été un peu ménagé derniers temps. Donc il n'a pas joué les matchs entiers. Les joueurs, oui, exactement. Les joueurs les plus en vue ce soir, c'est Lewandowski triplé, Ribéry qui a été passeur et buteur, certes avec un peu de chance, mais quand même beaucoup de brio. Et surtout, celui qu'il faut suivre et qui est en train de vraiment Thiago prendre Alcantara. Une dimension supérieure. Oui. Non, mais c'est James Rodriguez qui a été vraiment excellent. Et c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va remettre en cause l'entraîneur à Dortmund, évidemment. Ça va remettre en cause peut-être aussi les joueurs qui vont devoir se poser des questions. Et puis même, on en parlera peut-être dans les prochaines semaines et peut-être dès lundi, la stabilité de ce club. Parce que là, prendre 6-0 à Munich, c'est quand même un gros, gros choc.
Dis-moi, il paraît que Rummenigge a eu des déclarations à l'égard de Tuchel.
Ah non, je pensais sur Lewandowski. Ah ouais, où il dit, je suis sûr qu'il va rester.
Ouais. Ben, il a envoyé un peu sur tout le monde. Il a envoyé un peu sur tout le monde.
Rummenigge, quoi.
Oui, oui, ben c'est régulier avec les dirigeants du Bayern. C'est en alternance avec Uli Hoeneß. Il a surtout dit un élément intéressant et important. On le savait, mais il l'a confirmé. L'entraîneur à venir du Bayern, qui devrait être annoncé avant la fin du mois d'avril, et on est désormais le 1er avril. Donc ça veut dire que ça va se savoir bientôt. Ce sera un entraîneur qui parle qui parle couramment allemand. Donc ça réduit peut-être déjà un peu la liste, même si c'était un critère qu'on connaissait.
Mais couramment peut-être... allemand, ça veut dire que ça peut être un étranger, mais qui parle couramment
allemand. Si on dit allemand, ça veut dire que c'est pas un allemand.
Comme Niko Kovac, par exemple, qui fait de très belles choses avec Francfort cette année, ou Lucien Favre, effectivement, qui parle allemand aussi. Ouais.
Okay. Merci. Et surtout Hull, alors il a dit quoi, Rummenigge, hein?
Ah bah le truc c'est que il y a une espèce de je t'aime moi non plus, parce qu'on sait que le Bayern avait fait la cour dans un premier temps à Thomas Tuchel. Finalement, il a expliqué que Tuchel avait choisi son club. Alors ça veut pas dire qu'il a dévoilé le club, c'était Arsenal. Sinon on en aurait parlé dès aujourd'hui. Oui, c'est possible aussi. Mais voilà, il a livré une interview à nos confrères de Sky, la télévision en Allemagne. Et il a donné quelques cartouches sans pour autant dévoiler beaucoup de choses encore. Mais
et qui
quand
là,
même,
tu parles de Tuchel ou de Charles Henry?
Non, de Rummenigge.
Ce
qu'il a fait et qui ne surprend pas vu de Bavière, c'est qu'il a donné une communication quand même très positive et très optimiste. Parce que c'est vrai qu'autour de Munich, ces derniers temps, on se disait « Ah, la situation pour la recherche du nouvel entraîneur va se compliquer. » Étant donné que le premier choix, Heynckes a dit non, que le deuxième choix, Tuchel a dit non. Qu'est-ce que ça va être le troisième choix? Et il a dit, mais vous inquiétez pas, avant la fin du mois d'avril, vous connaîtrez le nouvel entraîneur.
Et il a dit que Lewandowski serait encore au Bayern. C'est étonnant, ça aussi.
Oui, aussi.
Il avait envie de parler, Charles-Henri, mais bon.
Oui. Il aime bien parler, Charles-Henri. Hein. Mais quand il parle, il envoie souvent.
Il sort de temps en temps.
Pélissier parle couramment l'allemand.
Ça, c'est dégueulasse.
L'entraîneur d'Amiens.
Si.
Moi aussi, hein, par ailleurs.
Ça, c'est un peu moqueur.
Ouais, c'est pas cool, Alina.
J'aime bien.
Non, c'est pas cool. En plus, il est cool, Christophe. Donc, ouais, c'est pas cool.
Si encore tu l'avais dit avec Gérard, je me serais marré.
Non, mais avec l'effectif du Bayern, il peut faire du bon boulot, encore mieux.
En tout cas, le Bayern n'est pas encore champion ce soir, puisque tu l'as dit, Nico, Charles qui avait gagné.
La semaine prochaine, alors.
Non, ça sera, contre Augsbourg, peut-être à Augsbourg. Et ça veut dire que la série. Qui veut que le Bayern ne soit jamais champion chez lui à l'Allianz Arena, risque de se valider encore avec le match à l'extérieur à Augsbourg la prochaine journée.
Merci mon Lorto.
Salut messieurs.
Bonne soirée mon Lorto.
Ciao David.
Ciao, bonne nuit Lorto.
Das Football, Das Football.
Yeah, Das Football. And das this is soccer too. Parce qu'il y avait du football également aux États-Unis. La première de Zlatan Ibrahimovic avec le LA Galaxy face au Los Angeles FC. C'était un derby. Il a marqué son premier but pour son premier match. Il est rentré en cours de jeu. Pour ceux qui ont BFM Sport les vénères, vous pouvez le voir. Le mec, il t'a claqué une volée à 25 mètres. Voilà, victoire 4-3 de LA Galaxy, qui ne compte d'ailleurs que des victoires depuis le début de la saison. Et donc, Zlatan qui était rentré, pour jouer les 20 dernières minutes.
Lui, voilà, hein. Quand il joue contre des piquets, il va pouvoir se régaler. Tous les idiots vont pouvoir voir ses buts en disant qu'il joue bien. Parfait, on va retrouver le cirque Zlatan avec tous les, avec tous les naïfs qui vont dire
ah, qu'est-ce qu'il est formidable.
Non, pourquoi il est passé quand il est parti du PSG pour aller à Manchester, il devait mettre tout le monde à genoux.
Tu l'as dit, le but là, il est magnifique. Hein.
Non, puis il a mis un doublé.
Un
doublé.
Non, rien.
Non.
Ça l'exaspère tellement. Le cirque Zlatan, c'est. Ah voilà, ouais, bref. Ouais. Tout ce que j'ai toujours dit sur ce joueur, c'est vérifié. Je le connais depuis tellement longtemps.
Merci Ali.
Avec plaisir.
Grazie mille. Merci Daniel.
À demain soir. Hein.
Mais bien sûr.
Demain, on a journée de championnat et tout. Grosse soirée encore.
Attends, demain, attends, c'est à partir de quelle heure demain déjà?
À partir de
6h du matin.
15h, Guingamp Bordeaux. Non. À partir de 15h Bordeaux, Ligue 1.
L'after, c'est après le match.
Oui, l'after, c'est après le match.
Toulouse-Lyon demain.
Et il y a le RMC Poker Show demain aussi.
Et ta chaîne site au Télab.
Avec des belles histoires que Daniel va nous raconter.
Ouais, demain, il y a deux matchs entre Lyon et Toulouse. J'en ai une pour la
c'est vrai.
Alors là, mon vieux, va te faire marrer. Je t'annonce qu'il va te faire marrer.
Et bah, merci à toutes les équipes techniques, hein. Jérôme Thomas, toutes les équipes éditoriales. Et à demain.
Bisous, ciao.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.